L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise depuis plusieurs mois un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires ». Podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs ou des politiques français ou internationaux. Aujourd'hui, dans ce 12e épisode, nous donnons la parole à Éric Chenu, tout nouveau président de la Fédération nationale de la mutualité française. Bonjour Éric Chenu, vous venez d'être élu à la présidence d'une institution qui fédère la quasi-totalité des mutuelles en France, 518 mutuelles. Vous en étiez jusque-là vice-président, vous étiez également administrateur délégué du groupe MGEN, administrateur également du groupe VIM. Je rappelle que vous êtes engagé dans le mouvement mutualiste depuis vos 20 ans, que vous avez créé la mutuelle étudiante LMDE et que vous avez en 2003 rejoint le groupe MGEN. Pour compléter votre présentation, j'ajoute que vous avez été président de la section Meurthe-et-Moselle pendant 8 ans, puis que vous êtes devenu délégué national aux établissements de 2011 à 2013, vice-président aux questions de santé, sanitaire et sociale de 2013 à 2017 et vice-président délégué en charge du budget, des finances, des risques et des partenariats de 2017 à 2021. C'est donc un long parcours dans le monde de la mutualité qui vous conduit vers ce mandat de président, mandat qui a commencé depuis début octobre et qui s'ouvre après 2 années de pandémie. J'imagine que ce que nous venons de vivre va orienter votre ou vos actions pour les 5 prochaines années.
Oui, cela va évidemment avoir un impact. On voit aujourd'hui la réalité de l'hôpital, la réalité du système de santé. Malheureusement, de nombreux soignants sont épuisés par cette crise sanitaire, sont en quête de sens également sur leur métier et s'interrogent quant au fait qu'ils poursuivent, et même certains ont d'ores et déjà décidé soit d'arrêter, de se réorienter professionnellement, soit de se mettre un peu en retrait, au moins conjoncturellement. Tous ces éléments-là sont extrêmement préoccupants et appellent de notre part à nous mutualistes, mais aux citoyens, assurés sociaux, patients, personnes malades en situation de handicap, de voir quel système de santé nous voulons, quel système de protection sociale nous voulons, comment l'organiser, comment le financer, comment répartir l'effort sur l'ensemble de ces questions en termes de financement, de contribution aux solidarités. Ce sont des questions éminemment importantes, qui sont des questions politiques au bon sens du terme, puisqu'elles participent du socle de cohésion sociale.
Ce sont des questions qui ont une actualité, je crois. Est-ce que vous souhaitez que nous parlions de la question de la taxe que le gouvernement envisage d'appliquer aux mutuelles ?
Oui, bien sûr, on peut tout à fait parler de cette taxe qu'envisage le Sénat. Donc en 2020, compte tenu que l'assurance maladie s'était substituée aux mutuelles sur un certain nombre de dépenses et compte tenu du niveau de déficit record de l'assurance maladie obligatoire, le gouvernement a décidé d'appliquer aux complémentaires santé une contribution exceptionnelle via une taxe d'1,5 milliard, donc nous en sommes acquittés. Bien que nous ayons dit à l'automne 2020, Thierry Baudet, mon prédécesseur, qu'il était anticipé de pouvoir appréhender les choses comme ça, de manière uniquement statique sur l'année 2020, qu'il fallait regarder les choses sur les années qui suivent. Pourquoi ? Parce qu'il y avait probablement un effet report. Et force est de constater, et ce n'est pas que nous qui le disons, l'adresse le dit, la Caisse nationale d'assurance maladie le dit également, depuis le 1er janvier 2021, il y a un effet report important. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos concitoyens n'ayant pu se faire soigner en 2020, qui avaient besoin d'accéder aux soins, l'ont fait au premier semestre et continuent de le faire d'ailleurs à cet automne. Et qui plus est, un certain nombre de nos concitoyens ont vu leur état de santé s'aggraver durant cette période. Et donc, ça amène des dépenses supplémentaires. Tout cela aboutit, si on prend l'année 2020 et l'année 2021, avec les moindres dépenses de 2020 et les plus de dépenses 2021, à plus d'1 milliard de dépenses supplémentaires sur les 2 années pour toutes les complémentaires santé. Pour les seules mutuelles, c'est 280 millions d'euros de plus sur les 2 années, sur les 2 exercices. Donc on voit que cet effet report, il est important. Et l'effet report, il est complété également par des dépenses supplémentaires qui sont liées à l'application du 100% santé, notamment en dentaire et en audiologie. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que ça montre que des gens jusque-là renonçaient aux soins, n'avaient pas accès notamment aux soins prothétiques ou aux équipements en audiologie. Et désormais, grâce à la complémentarité, au partenariat entre l'assurance maladie obligatoire, les complémentaires et les professionnels, on est arrivé à organiser les choses pour que, via un certain nombre de paniers, il n'y ait aucun reste à charge. Donc ça permet à nombre de nos concitoyens de pouvoir mieux se soigner, ce qui est plutôt une avancée sociale.
Alors, dans votre discours prononcé lors de votre investiture, vous évoquez la nécessité d'apporter des solutions concrètes, résolument modernes aux défis de notre société, afin d'améliorer le complet bien-être, je reprends vos propos, physique, psychique, social et environnemental. À quoi pensez-vous ? Pouvez-vous illustrer ce propos ?
Je vais prendre un premier exemple, le champ du numérique en santé, qui pour moi est un formidable levier potentiel de réduction des inégalités. Il y a deux façons d'appréhender l'utilisation des data. Soit une façon très libérale de s'appuyer sur ces techniques-là pour plus segmenter le marché de la santé, pour individualiser les risques, ce qui, de mon point de vue, est un leurre. C'est un leurre en termes, bien évidemment, de vision de la société, mais c'est un leurre même en termes assurantiels. Ou, au contraire, d'utiliser les data comme moyen de gagner en efficience dans le recours aux soins, d'orienter vers le bon soin au bon moment, d'éviter des pertes de chance, d'éviter que on accède aux soins dont on a besoin peut-être trop tard et auquel cas ça entraîne un certain nombre de dégâts. Si on utilise bien les data, on peut améliorer les choses, et donc améliorer l'efficience de la dépense de santé. Aujourd'hui, on sait, c'est pas spécifique à la France, c'est le cas de tous les pays développés, le niveau de ce qu'on appelle de soins inadéquats, c'est-à-dire de soins redondants, de soins qui ne sont pas faits au bon moment, c'est 20-25% de la dépense de santé. Donc on voit qu'on a des formidables gains. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui n'accèdent pas aux soins ou qui accèdent trop tardivement et donc qui pourraient y accéder plus tôt. Et il y a des soins qui ne sont pas utiles, donc autant ne pas les effectuer. Qui plus est, en utilisant bien les data, on pourrait mieux personnaliser les programmes de prévention, de gestion du risque, des programmes d'accompagnement. Et là encore, finalement, avoir un meilleur accompagnement social et humain des populations qui sont protégées par les mutuelles. Et donc c'est tout cela que l'on souhaite travailler. Et donc pour cela, la mutualité a proposé aux mutuelles qui le souhaitaient, sur la base du volontariat, de mettre en commun leurs données, de manière anonymisée bien évidemment, pour initier des programmes de recherche en santé avec des équipes universitaires, des équipes de chercheurs. Et aujourd'hui, de nombreuses mutuelles ont décidé de s'engager dans ce projet-là. Ce sont un peu plus de 40% des populations protégées par les mutuelles qui vont pouvoir bénéficier de ces dispositifs. C'est, je crois, une manière utile, concrète, d'utiliser des techniques, des technologies pour amener finalement l'effectivité de la modernité au sein de la réponse mutualiste.
Alors ce système très vertueux que vous êtes en train de décrire, il faut combien de temps pour pouvoir être vraiment opérationnel et pour qu'on puisse commencer à mesurer les effets positifs pour les uns et les autres ?
Alors c'est toujours très compliqué de donner des échéances de calendrier. Ça va être progressif. Les premières étapes, je pense que dans les 2 années qui viennent, vont pouvoir commencer à se concrétiser puisque les projets sont en cours, que ça soit via le Mutuel Data Hub dont je viens de parler, que ce soit via Mutuel Impact, qui est un fonds d'innovation sur lequel des mutuelles ont mis des moyens en commun, des ressources économiques, pour investir, accompagner un certain nombre de start-up, là aussi pour faire émerger de nouvelles pratiques en termes sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. Là, on est déjà à des premières concrétisations en la matière, sur le champ environnemental, sur le champ également social. Et tout ça va continuer à avancer dans les mois, dans les années qui viennent. Et l'effectivité, elle va être progressive. Et l'idée, c'est d'amener brique après brique les éléments des protections sociales durables pour les populations que nous protégeons.
Vous évoquez encore dans votre discours l'envie d'être et de faire ensemble. Vous évoquez notamment l'économie sociale et solidaire. Donc, est-ce qu'on touche ce point-là avec les propos que vous venez de prononcer ? Et puis, vous évoquez aussi la question des territoires.
Pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est l'ancrage de la mutualité. Nous sommes avant tout des sociétés de personnes, que l'on soit une petite mutuelle ou qu'on soit un grand groupe qui protège 11 millions de personnes, que l'on soit une mutuelle santé ou une mutuelle de prévoyance d'épargne retraite, que l'on gère de la prévention, de l'action sociale ou des services de soins et d'accompagnement mutualiste. Tout ça, c'est porté par des femmes et des hommes, élus et salariés, qui font vivre nos mutuelles au quotidien. La mutualité, elle a cette histoire-là. Moi, j'ai l'habitude de dire que faire mutualité, c'est à la fois s'assurer contre un risque dont on ne peut assumer seul les conséquences, mais c'est aussi faire ensemble ce que l'on ne pourrait réussir seul. Et donc, par l'action mutualiste, il faut aussi qu'on retrouve ces espaces d'engagement mutuel, qu'on donne la capacité à des femmes et des hommes qui veulent agir sur leur environnement, à l'échelle de leur quartier, de leur village, de leur ville, de leur entreprise, de leur environnement professionnel, de transformer cet environnement, de pouvoir agir, ne pas subir les transformations radicales auxquelles notre société est confrontée, de pouvoir faire œuvre utile pour eux et pour les autres, de donner du sens finalement à l'action collective. C'est aussi ça, la mutualité, c'est être des espaces d'innovation sociale. Et donc ça, de mon point de vue, c'est au plus proche des besoins, à l'échelle des territoires, le territoire pouvant s'appréhender de façon différente, hein, ça peut s'appréhender sur un territoire géographique, une ville, un bassin de population, mais ça peut s'appréhender aussi d'un territoire socio-professionnel, si c'est le lien plus affinitaire, plus identitaire, qui donne envie aux gens d'agir. Donc c'est ces différents territoires qu'il faut qu'on appréhende. Et c'est pour ça que le prochain congrès de la mutualité, en septembre 2022, va traiter de la question de l'entraide en mutualité entre les générations et entre les territoires. Parce que c'est finalement la manière pour la mutualité de se remettre en mouvement, de donner la capacité à des femmes et des hommes d'agir pour eux, par eux, et avec nous. Et ça me semble absolument essentiel. Pourquoi entre les générations ? Bien, tout simplement parce que on est évidemment présent auprès des plus âgés, des plus fragiles, des malades. C'est tout à notre honneur et c'est absolument nécessaire. Mais il faut aussi qu'on soit aux côtés des plus jeunes qui ont été extrêmement fragilisés pendant cette crise sanitaire et qu'on leur montre en quoi et pourquoi la mutualité est un mode d'engagement, d'entreprendre participatif, qui est porteur de sens, dans lequel beaucoup peuvent se reconnaître. Et que ça soit aussi un lieu où ils vont pouvoir trouver de l'insertion professionnelle, puisqu'on porte quand même plus de 75 000 emplois dans toute la sphère de la mutualité. Et puis que l'on est bien évidemment en capacité d'apporter les protections pour leur vie personnelle, professionnelle ou familiale future.
Alors, est-ce que c'est une image qui est répandue dans l'esprit de nos concitoyens, celle d'une mutualité qui entreprend, qui soutient, y compris quand on va bien ?
C'est pas assez dans l'image, et c'est justement tout le projet que je porte, c'est une mutualité compagnon de vie, une mutualité présente, actrice en permanence, mais pas actrice dans une dimension prestation de services, solvabilisation des dépenses, mais aussi donner la capacité à. Tout le sens de mon engagement depuis plus de 30 ans maintenant, c'est la question de l'émancipation. De l'émancipation par l'éducation, l'émancipation par la culture, l'émancipation par la citoyenneté et l'engagement, mais aussi l'émancipation par les solidarités et la santé. Comment on s'extrait de l'aléa ? Comment on fait en sorte de ne pas être contraint par un accident de la vie ? Et finalement d'être outillés pour s'élever progressivement, toutes et tous, à la capacité d'être des citoyens libres et éclairés. C'est cela aussi la mutualité, c'est aussi ce combat-là. Depuis Léon Bourgeois et le solidarisme, qui est fondateur de notre République, de notre socle républicain depuis maintenant plus de 70 ans, puis l'après-guerre, avec la sécurité sociale, la mutualité en complémentarité, eh bien c'est cela que l'on porte. Et donc c'est aussi ça qu'il faut qu'on retrouve pleinement en faisant en sorte que des femmes et des hommes trouvent par notre intermédiaire la capacité de reprendre pied dans leur vie. On doit faire face à une triple transition. La transition écologique, la transition démographique et la transition numérique. Et donc, il faut qu'on participe avec eux de leur capacité à être acteurs de ces trois transitions. La transition écologique, bien évidemment la dimension santé environnementale, l'impact de l'environnement sur notre santé, mais aussi l'impact des transitions écologiques dans nos modes de production et de consommation. Or, notre protection sociale est essentiellement financée par des cotisations sociales et fiscales qui dépendent des modes de production et de consommation. Si ces modes sont énormément impactés dans les années qui viennent, si on veut prendre le virage de la transition écologique, qu'adviendra-t-il des leviers de financement de la protection sociale solidaire telle qu'on la connaît ? Ce sont des questions qui me semblent nécessaires de poser. La transition démographique. On vit quatre générations et demie en même temps aujourd'hui, peut-être bientôt 5. Comment tout cela va impacter la santé des populations ? On le voit d'ores et déjà. Le vieillissement de la population aboutit à une augmentation importante des affections de longue durée. Tout ça a un impact sur notre système de santé, a un impact également sur les coûts en santé. Comment on investit davantage sur le champ de la prévention ? On a un système qui est beaucoup trop curatif et pas assez orienté sur le care. Comment on réoriente les flux pour faire en sorte que les gens restent en bonne santé plus longtemps ? On a une espérance de vie sans incapacité qui est très moyenne dans notre pays. En moyenne, une femme vit 22 ans avec des incapacités, les hommes 17 ans. Je pense que ce n'est pas inéluctable. D'autres pays font bien mieux que nous en la matière. Et donc, on a probablement à travailler. Et puis la transition numérique, on en a parlé. L'impact des data est considérable sur notre organisation, dans le champ des protections sociales, mais aussi dans le champ de la vie quotidienne. Et il faut bien évidemment qu'on accompagne les citoyens et les citoyennes via une forme d'éducation populaire et citoyenne en numérique pour qu'ils puissent faire des choix en toute connaissance de cause et aiguiser leur libre arbitre.
Je vous remercie pour ces propos très clairs. J'ai encore quelques petites questions, notamment celle de la thématique ouverte et portée par l'Institut Montparnasse en 2021-2022, qui est celle de la démocratie renouvelée. Pour vous, comment peut-on renouveler la démocratie dans les organisations ? Comment remobiliser ? Comment redynamiser ?
Je crois qu'il faut que la mutualité, mais les structures de l'économie sociale et solidaire plus largement, s'adaptent aussi à l'aspiration finalement sociale. On l'a vu pendant la crise sanitaire, il y a eu ce qu'on a appelé les makers, c'est-à-dire des gens qui spontanément ont décidé de mettre en commun leur savoir, leurs expertises, des étudiants, des médecins, des ingénieurs, pour fabriquer des respirateurs dont on manquait tant pendant la première partie de cette crise sanitaire, et bien d'autres choses en la matière. On le voit à chaque fois qu'il y a une grande crise écologique, tempête, etc., une crise même à l'autre bout du monde, il y a des élans de solidarité spontanés qui se font jour. Donc ça montre que, contrairement aux idées qui circulent quelquefois, les gens ne sont pas plus individualistes. C'est simplement qu'ils ne traduisent plus leur engagement de la même façon. Ils n'ont pas forcément envie de s'engager, d'adhérer au sens littéral du terme, à une organisation durablement. Ils ont peut-être plus envie qu'avant de s'engager sur un projet, sur une action, plus qu'à une organisation. Et donc ça, il faut qu'on organise les choses pour qu'on s'engage sur une action, un projet, puis un autre. Et puis peut-être qu'en étant aux côtés d'une organisation, ça va donner envie de s'y impliquer plus, de façon plus importante et de prendre les relais absolument nécessaires si on veut préserver la démocratie sociale, la démocratie en santé, la démocratie participative. Mais leur demander de rentrer, dans un conseil d'administration pendant 6 ans, c'est pas forcément leur aspiration. Donc là-dessus, il faut qu'on tienne compte de cette évolution de l'engagement qui est plus séquentiel, qui est différent, qui demande de nouveaux modes d'organisation, de la militance. Et la mutualité n'y échappe évidemment pas. Et voilà, je pense qu'on peut le faire. Je vais donner un exemple d'un projet que j'ai porté à la MGEN il y a 5 ans. C'était un projet de prévention des chutes chez la personne âgée. J'ai proposé, parce que le programme tel qu'il était expérimenté était très coûteux, qu'on puisse former de jeunes retraités pour qu'ils deviennent effecteurs auprès des publics plus âgés. On l'a testé sur un département, on a modélisé la formation, on a fait de la formation de formateurs hein, pour former bien ces personnes-là et que ces personnes puissent encadrer, selon leur disponibilité, 2 groupes, 5 groupes, 10 groupes, après de personnes. C'est-à-dire qu'avec une personne formée, on pouvait toucher 20 personnes, 100 personnes. On y est allé en se disant, on teste, on va voir si ça prend, si ça intéresse ces jeunes retraités. Eh bien, ça a intéressé. Et on a trouvé des gens qui acceptaient de s'engager. Ouais, ils n'avaient rien à gagner, c'était totalement bénévole, mais c'était concret. Ils voyaient tout de suite ce en quoi leur implication apportait à d'autres. Et donc, étant donné qu'ils voyaient tout de suite le sens, ça leur semblait naturel, possible, de donner du temps. Eh bien, pour moi, c'est aussi ça, faire mutualité. C'est partager le temps, les expertises, les aspirations, être utile aux autres, en espérant aussi que le jour où on en aura besoin, d'autres, bien évidemment, s'engagent et nous accompagnent. Eh bien, c'est aussi ça, finalement, organiser les choses dans le temps long, inscrire l'action mutualiste dans le temps long, créer les relais de solidarité. Je pense que c'est aussi une manière de réinterroger, finalement, cette démocratie participative. Et puis, peut-être, un autre élément, moi, qui me semble extrêmement important, c'est comment on recrée des espaces à la délibération commune. Je parlais tout à l'heure des transitions écologiques, démographiques, numériques qui impactent notre société, mais il y a plein d'enjeux d'évolution scientifique, médicale, qui sont très très rapides aujourd'hui. On a eu la révision des lois de bioéthique qui ont été enfin adoptées à l'été 2020. La mutualité a décidé de mettre en place un espace fédéral d'éthique pour instruire ces grands sujets. Autour du numérique en santé, autour de la fin de vie, de la santé environnementale, des familles et des parentalités, des questions de solidarité, de responsabilité, des fraudes. Voilà, je donne quelques exemples, mais il y en a bien d'autres. On a organisé cette réflexion au plan national, mais j'ai souhaité, puisque j'animais cet espace fédéral d'éthique, le décliner à l'échelle régionale, pour que, là aussi, on donne de la capacité à des femmes et des hommes autour de nous d'y participer, de prendre place, finalement, dans la réflexion. Eh bien, petit à petit, les unions régionales de la mutualité française ont mis en place ces espaces, et ça a fonctionné. Et ça a même fonctionné pendant la crise, puisque, comme ils ne pouvaient plus se réunir en présentiel, ils ont organisé des webinaires, et ces webinaires ont rencontré un vrai succès. Ça crée des espaces de discussion, de réflexion commune. On recrée de la possibilité, finalement, de partage. Et ça me semble absolument essentiel à l'heure où la cohésion sociale est très malmenée, à l'heure où certains voudraient apporter aux différentes fractures sociales que nous connaissons uniquement le repli identitaire et sécuritaire. Eh bien, c'est au contraire de plus de sécurité sociale dont on a besoin, mais c'est aussi plus de débat, plus de démocratie, mais de démocratie sereine. La démocratie ne pourra être sereine que si elle est éclairée, si on donne la capacité aux citoyens d'échanger ensemble, de faire ensemble. La mutualité est un des derniers espaces où des femmes et des hommes venus d'horizons différents, ayant des aspirations, des engagements personnels, politiques, syndicaux, philosophiques qui leur sont propres, travaillent, agissent et réfléchissent ensemble. Mesurons combien cela est précieux et singulier et combien nous devons le faire vivre, le développer. Et c'est ce à quoi je nous invite au niveau de la mutualité française.
Un mot peut-être, Éric Chenus, sur les jeunes. Qu'en pensez-vous de cette jeunesse qui s'inquiète pour son avenir? Et on peut imaginer très facilement pourquoi. Est-ce que vous pouvez compter sur les jeunes? Est-ce que vous avez le sentiment que la mutualité peut aussi embarquer cette génération?
En tout cas, c'est mon intention de pouvoir faire des choses pour eux, mais de faire des choses avec eux, par eux, avec les organisations de jeunesse qui existent, mais aussi en donnant la possibilité à des jeunes de pouvoir s'investir avec nous. Si on ne leur tend pas la main, si on ne crée pas des espaces d'engagement mutuel, ils ne pourront pas prendre leur part et assurer et assumer les relais indispensables aux solidarités. Donc je pense que c'est aussi en faisant un pas vers eux, en leur montrant qu'ils ont leur place, leur pleine place, que nous pourrons le faire. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de mutuelles, il y a un certain nombre d'unions de la mutualité française qui organisent des choses sur, compte tenu de la précarité qui s'est accentuée, avec des épiceries solidaires. Il y a un certain nombre de mutuelles qui s'engagent sur la question du logement des jeunes, parce que c'est un déterminant de santé, parce qu'on sait que ça peut être ce facteur d'émancipation dans la construction de l'autonomie de la jeunesse. Et donc, je pense que là aussi, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et puis, il y a aussi plein d'initiatives qui sont prises pour accompagner des initiatives de jeunes, là aussi très spontanées, de solidarité, les organiser dans la durée. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut que l'on fasse.
Venons, si vous voulez bien, maintenant à ce tout récent rapport qui est le fruit d'une collaboration entre l'Institut Montparnasse, Benoît Hamon et Eve Durchetti, rapport qui s'intitule « Quel rôle pour la mutualité dans nos sociétés au XXIe siècle ?». Ce rapport est organisé autour de 4 priorités. Est-ce qu'il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur et sur laquelle vous souhaitez réagir ?
Non, il n'y en a pas une plus particulièrement. Pour moi, c'est vraiment l'ensemble qui est intéressant et important, parce que c'est l'ensemble qui fait sens dans les spécificités de l'économie sociale et solidaire. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'économie sociale et solidaire, elle se caractérise à la fois par son mode d'entreprendre participatif, sa gouvernance démocratique, sa lucrativité limitée et son volontarisme. Voilà, c'est tout ça qui caractérise l'économie sociale et solidaire. C'est le fait qu'on est des sociétés de personnes, je disais, de femmes et d'hommes engagés, élus comme salariés. C'est aussi cette complémentarité entre les élus et les salariés qui caractérise la mutualité. Et c'est tout cela qu'il faut que l'on porte. Mais il ne suffit pas qu'on en soit convaincu dans les parties prenantes internes des structures de l'économie sociale et solidaire. Il faut qu'on porte cette dynamique-là, cette ambition émancipatrice-là auprès de la société. Qu'on montre finalement en quoi et pourquoi on contribue au commun, au bien commun de la société, à l'intérêt général. Et ça me semble absolument essentiel. Comment on peut créer des espaces de coopération, de participation? Comment on donne finalement de la capacité à l'ensemble de la population de pouvoir débattre sereinement? Pour nous, mutualité, c'est absolument essentiel, puisque aujourd'hui, si on fait un micro-trottoir, ne nous cachons pas, la plupart des gens, si on leur dit « ça vous fait penser à quoi mutuelle ?», ils vont penser à la complémentaire santé. Ils ne vont pas penser forcément à la prévoyance, ils ne vont pas penser à l'épargne retraite, aux garanties de perte d'autonomie. Ils ne penseront pas forcément aux offres de santé qu'on peut proposer, aux cliniques mutualistes, aux établissements sanitaires en santé mentale, à tout ce que l'on peut initier en termes d'accompagnement, de prévention, d'action sociale. Donc il faut qu'on leur montre l'étendue de tout ce que l'on fait, mais aussi qu'on montre que, finalement, par les cotisations mutualisées, l'impact, l'utilité sociale, l'empreinte mutualiste, elle se mesure bien au-delà de la seule redistribution prestataire. Bien évidemment, notre rôle, c'est de gérer des cotisations, de verser des prestations, mais ça ne se limite pas à cela. Par la prévention, par les réseaux conventionnés, on permet aux gens un accès effectif aux soins, on permet de réduire les restes à charge, on permet qu'ils gèrent leur capital santé le plus longtemps possible, le mieux possible. Eh bien, c'est aussi ça l'économie sociale et solidaire. C'est comment on est concret, comment on permet aux gens d'être acteurs, de prendre pied dans leur vie pleinement et de décider. Finalement, on contribue et on participe de leur dignité. Ça me semble absolument essentiel.
Dernière question, Éric Chenu, si vous voulez bien. Elle porte cette fois-ci sur les enjeux de la mutualité à l'échelle européenne et internationale. Comment voyez-vous les choses ?
Vaste question. Pour être très clair, dans le mandat qui s'engage, je souhaite qu'on se concentre sur l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'on va déserter les questions internationales, l'Association internationale de la mutualité, bien au contraire. Mais je pense qu'il faut se donner des priorités. On ne pourra pas tout mener de front. Pourquoi l'Europe ? Parce que je reste convaincu que c'est quand même notre espace utile demain, qu'il faut qu'on renforce nos collaborations avec d'autres mutualités dans d'autres pays européens. On a évidemment des habitudes de travail avec nos amis belges, notamment de Solidaris, et je souhaite qu'on renforce ce taxe de travail avec eux. Il y a des mutuelles qui développent des activités dans d'autres pays, et je pense qu'il faut vraiment créer les conditions pour qu'elles puissent le faire le mieux possible. Il y a des nouvelles ambitions autour du groupe prudentiel d'assurance mutuelle européenne qui se développe. Il y a un certain nombre de perspectives de travaux autour de ça qui, je crois, doivent être appréhendées de manière intéressante et importante. Saisir aussi l'occasion des travaux de Nicolas Schmitt à l'échelle de la Commission sur finalement une forme de définition de ce qu'est l'économie sociale et solidaire, de sa contribution au développement économique, dans le cadre du marché intérieur de l'Union. Là aussi, je pense qu'il y a des points à marquer. Durant la présidence française de l'Union européenne, il y aura un certain nombre d'initiatives prises sur la question d'économie sociale et solidaire, notamment les rencontres de Strasbourg. Avec l'AIM, la mutualité organise un événement en janvier 2022, le 24 janvier 2022. Donc là aussi, on va nourrir le débat, participer à la mobilisation sur ces questions. Et puis plus largement sur les questions et internationales et européennes, il faut aussi que nous, mutualistes, on éclaire un certain nombre de sujets autour de la question du travail, autour de la question des mobilités, finalement des grands déterminants de santé qui peuvent être appréhendés dans les institutions internationales, que ce soit le BIT, l'OIT, que ce soit l'ONU ou que ce soit l'UNESCO. Les questions de santé, les questions de protection sociale, les questions d'émancipation sont au cœur de nos sujets, de nos débats. En tant que acteur de l'économie sociale et solidaire, la mutualité peut y prendre toute sa place. Et donc j'espère qu'on saura, par la mobilisation des femmes et des hommes qui font nos mutualités au quotidien, investir ces champs d'intervention.
Je vous remercie Éric Chenu de nous avoir accueillis. Merci pour ces réponses très claires et très constructives. Vous voulez ajouter quelque chose, peut-être en conclusion ?
Peut-être juste un point. La mutualité organise Place de la Santé pour éclairer les futures échéances électorales, présidentielles, législatives. C'est un espace qui a vocation à éclairer le débat. On ne va pas dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Ce n'est pas notre rôle. Par contre, objectiver un certain nombre de sujets, un certain nombre d'enjeux, ça nous paraît important. C'est pour ça qu'on a développé une rubrique Info Désintox, puisque malheureusement aujourd'hui on est à l'ère des fake news et il faut qu'on arrive à les décrypter. On va décrypter bien évidemment aussi les programmes des candidats et des candidates aux élections futures. Et puis, en marge de cette Place de la Santé, la mutualité va développer ses propres propositions à l'occasion des élections présidentielles législatives. Et on a organisé une convention citoyenne, 70 personnes tirées au sort, représentatives de la société française, sont en train de travailler depuis octobre, et elles vont terminer leurs travaux en décembre, sur la question de l'entraide, de l'aide, de l'entraide et des solidarités. L'enjeu, c'est à la fois de questionner les futurs candidats, candidates à l'élection présidentielle sur ces questions-là, sur ce qu'ils attendent d'eux, ce qu'ils attendent de l'action publique, la manière dont toutes ces questions doivent être appréhendées, en quoi elles sont utiles aussi à notre cohésion sociale. Mais cette convention citoyenne, elle va aussi nous interpeller, nous, mutualistes. Donc on accepte de se mettre en risque. Et ça sera bien évidemment un des éléments qui va nourrir nos travaux jusqu'au congrès de la Mutualité française en septembre 2022 à Marseille. Et je pense que là aussi, c'est utile d'être en résonance avec les attentes, les aspirations sociales, mais de créer autour de nous des espaces de participation, mais aussi des espaces où on accepte de se mettre en danger pour se réinterroger aussi sur notre sens, notre utilité, notre efficacité, pour qu'on puisse, comme on l'a fait tout au long de notre histoire, continuer de nous adapter. Être fidèle à nos valeurs, à notre passé, ce n'est pas être notarié du passé, refaire exactement la même chose, mais c'est tout simplement se réinterroger sur comment bien faire aujourd'hui, comme l'auraient fait nos prédécesseurs, en fonction du contexte du moment, en fonction des aspirations sociales, sociétales, et en fonction de nos contraintes. Et donc aujourd'hui, je pense que cette convention citoyenne, elle va nous permettre aussi, nous mutualistes, eh bien, de nous réinterroger. Et je pense que ça sera un élément extrêmement important de ce congrès qui va traiter de la question de l'entraide en mutualité entre les générations et entre les territoires.
Alors, pour suivre ces travaux, ceux de la Convention citoyenne que vous venez de citer, pour voir ce qui se passe sur cette place de la santé, rendez-vous sur votre site
mutualité.fr.
C'est parfait. Merci beaucoup, Éric Chenu.
Merci à vous.
Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre les enjeux actuels et futurs de la mutualité française. Podcast à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, celui de Podcaster Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts.